Bienvenue. Vous écoutez FinTech, le podcast de France FinTech qui donne la parole à celles et ceux qui réinventent la banque et l'assurance. Litchi, Ulu, Luco, Bankin, Lydia, Conto, vous avez sans doute déjà entendu leur nom au moins une fois, vu leur pub dans le métro et peut-être même utilisé leur service. Saviez-vous qu'on les appelle FinTech, AssureTech et RegTech, contraction de finance, assurance, régulation et technologie ? C'est pour apprendre à les connaître et mieux comprendre les enjeux de leur métier que nous avons créé FinTech. Je m'appelle Anaëlle Gauthier et chaque semaine, je vous emmène à la rencontre de ces entrepreneurs et entrepreneuses qui façonnent les nouveaux services financiers. Bonne écoute ! Pour ce 14e épisode de FinTech, j'ai discuté avec l'un des entrepreneurs les plus connus de la fintech française, Olivier Goy. C'est le fondateur et CEO d'October, une plateforme de prêt pour les entreprises. Un épisode qui sort juste après pas mal d'annonces ces dernières semaines du côté d'October sur des nouveautés et des partenariats. Je vous laisse écouter l'épisode pour en savoir plus. Bonjour Olivier.
Bonjour Annelle.
Alors, première question que je me permets de te poser, comment vas-tu ?
Je vais bien. Oui, je vois dans tes yeux une gêne à poser cette question, comme pas mal de monde qui n'ose pas me demander comment je vais. Si, si, je vais bien. Pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents, effectivement, j'ai annoncé que j'avais une sale maladie. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, une sclérose latérale amyotrophique. Mais le moral est très bon. Le moral est toujours très bon, parce que je l'avais longuement expliqué dans un podcast précédent, et on ne va pas faire ce podcast sur ma maladie, ça n'a pas d'intérêt. Mais le moral est très bon, et plus que jamais content de vivre la vie qui est la mienne.
Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que tu peux du coup te présenter autrement que sur ce sujet-là, et me dire ce que tu fais dans la vie ?
Alors effectivement, la maladie n'est pas la seule chose qui me définit. J'ai toujours été un entrepreneur dans l'univers de la finance, avec une première société que j'ai créée quand j'avais 26 ans, qui s'appelle Entrepreneur Investment Managers, qui est un fonds de capital investissement, au début principalement tourné vers les investisseurs privés, et aujourd'hui avec une double clientèle, investisseurs privés et investisseurs institutionnels. Société dans laquelle je ne suis plus opérationnel depuis que j'ai créé October, plateforme de prêt aux entreprises, aux TPE, PME, créée en octobre, comme son nom l'indique, 2014, donc ça fait maintenant 6 ans, presque 7, qu'on est parti dans cette aventure avec mes camarades. Donc ça, c'est ce qui m'occupe au quotidien. En plus, bien entendu, et je suis obligé de le mentionner là, sans quoi je vais me faire tirer les oreilles par notre président Alain Clos, je suis également, depuis 2014-2015, j'arrive plus à dater exactement d'ailleurs la naissance de l'association, mais je suis vice-président et trésorier de France FinTech, avec toute une bande effectivement de joyeux entrepreneurs et sous la main de fer de Christine, notre managing director.
2015, je crois, effectivement.
2015, merci. Tu as une meilleure mémoire que moi pour les dates. Merci, Annelle.
Et du coup, donc, tu mentionnes October 2014. Vous faites partie, on va dire, des vieilles fintech quand même déjà. Est-ce que tu peux me dire... D'où venait l'idée et pourquoi vous aviez créé October à la base, et peut-être me dire un peu plus où vous en êtes aujourd'hui.
Alors, l'idée, d'abord, ce n'est pas une idée fulgurante qu'on a eue et que personne n'a eue, au contraire. C'est une idée qui est née d'abord parce qu'une loi nous a autorisé à la créer. Donc, c'est une loi qui remonte, comme je le disais, à octobre 2014, loi qui ouvre une brèche dans le monopole bancaire, qui dit... Il peut y avoir des acteurs autres que les banques qui prêtent de l'argent aux entreprises, qui intermédient ceux qui ont de l'épargne, les particuliers ou les institutionnels, avec les entreprises. Donc, au départ, il y a loin de n'avoir qu'October sur le marché. Pour être précis, on a une soixantaine à se lancer à ce moment-là, donc plutôt juste en France. Hein. Il y en avait autant dans les autres pays européens. Donc on se lance en France. D'ailleurs, on n'est pas les premiers à s'être lancés. Il y en a qui étaient là avant nous, mais on est tous nés plus ou moins au même moment dans un laps de temps de 6 mois. Et on lançait sur ce marché, a priori très simple, a priori très glamour. Hein. C'est vachement sympa. On prête de l'argent aux entreprises avec une app mobile qui tient au creux de la main. La réalité du métier, on l'a vu, est beaucoup, beaucoup plus complexe parce que derrière cette partie visible de l'iceberg, en fait, il faut mettre beaucoup de technologie. D'abord, pour rendre l'expérience du prêteur très simple. Ça, on va dire que c'est la partie facile du parcours. Mais surtout, rendre le scoring plus intelligent, l'expérience emprunteur complètement différente de ce qu'on peut vivre dans le monde bancaire. Et ça, même si on a plein d'idées en tête quand on crée une entreprise comme October, la réalité, c'est qu'il faut du temps, il faut apprendre, il faut faillir pour progresser. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avoir des défauts pour affiner les modèles de scoring. Il faut commencer quelque part un peu de manière manuelle avant d'arriver à des choses vraiment automatiques. Et finalement, je pense que la deuxième naissance d'October, c'est en ce moment. C'est-à-dire que c'est en ce moment qu'on tire vraiment les fruits de tout ce qu'on a construit pendant 6 ans. C'est en ce moment qu'on est capable, grâce à la technologie, de tenir la promesse initiale qui est de mettre le crédit au creux de la main des entrepreneurs et pas simplement des prêteurs. Et c'est très, très excitant.
Et du coup, si tu peux me donner un peu peut-être des chiffres clés de où vous en êtes, parce que vous êtes présent dans plusieurs pays, vous êtes beaucoup d'employés aussi, enfin, il y a beaucoup de gens dans l'équipe.
Oui.
Si tu peux me donner un peu, tu vois, quelques milestones peut-être.
Oui, bien sûr. Alors, pour donner effectivement quelques faits clés, on est présent dans 5 pays. La volonté de créer dès le démarrage une société pan-européenne, donc une société qui est dans 5 pays, France, Espagne, Italie, Pays-Bas et Allemagne, dans cet ordre d'ouverture. On a prêté un peu plus de 570 millions d'euros à 1 500 entreprises à peu près. Tout ça s'accélère très vite. Et notamment en sortie de Covid. Alors, je ne sais pas si on est en sortie de Covid, mais en tout cas, depuis décembre 2020, pour te donner une idée, on a prêté à plus de PME au cours des 4 premiers mois de 2021 qu'au cours des 4 premiers mois de 2018, 19 et 20 additionnés. Voilà, donc ça donne une idée de l'accélération. Là, on sent vraiment que tout ce que l'on a travaillé dur avec la tech, le produit, le crédit, les sales, paye enfin maintenant, en fait. Et ça fait extrêmement plaisir. C'est quelque chose qui est vitalisant pour toute l'équipe.
Et tu mentionnes les différents départements de l'entreprise. Comment on fait pour bien aligner les intérêts, tu vois, des différentes équipes? Comment on fait pour fédérer, en fait, l'équipe autour du service client à la fin, c'est ça?
Alors d'abord, effectivement, l'équipe, c'est une multitude de compétences. Pour créer un service comme October, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut bien sûr beaucoup de technologie au sens codé. Il faut beaucoup d'intelligence dans la manière dont on présente les choses, de la user experience, du produit, la manière de présenter les... Voilà, c'est tout ce qui est notamment sous la houlette de notre Chief Product Officer, Sarah. Donc ça c'est la première chose qu'on imagine facilement. Deuxièmement, il faut du scoring crédit. Il faut aller se plonger dans la data qui est fondamentale. On a une équipe de data science qui est basée à Amsterdam notamment pour plonger dans cette data. Et puis ensuite, il faut impulser cette culture de l'entreprise autour de chacun des CEO pays. On a fait le choix d'être dans 5 pays, mais d'être implanté localement avec des CEO d'un très bon niveau. C'est aussi l'impulsion de notre CEO, Patrick Donneville, qui est vraiment l'architecte notamment du produit Kia, dont je pourrais te reparler tout à l'heure. Donc voilà, c'est tout ça. Et puis après, la culture d'une entreprise, moi, j'ai la conviction qu'elle se forge en adversité, en fait. Tu ne peux pas créer une vraie culture d'entreprise tant que tu n'es pas confronté à des murs. Et on s'est pris quelques murs et ça nous a fait énormément progresser. Le premier mur qu'on s'est pris, qui a été très violent, c'est la première fraude qu'on a expérimentée en 2016, peut-être. Là encore, je m'en mêle, peut-être dans les années précises. Une fraude de 500 000 euros. On se fait voler 500 000 euros par un emprunteur. Et on s'en aperçoit après lui avoir envoyé l'argent. C'est dommage. Donc là, c'est un vrai premier baptême du feu. On dort mal, mais on récupère cet argent, on va en justice, on fait condamner cette bande organisée qui nous a fraudés. Et ça a créé le premier moment fort dans l'entreprise, la culture d'entreprise. Voilà. Et c'est par ces moments-là qu'on arrive ensuite à bâtir les fondations de quelque chose. Quand tu commences, et notamment que tu commences par des premiers succès, ça ne bâtit rien. À la limite, ça fait juste une bande de gens un peu prétentieux qui pensent que voilà, tout est facile, il n'y a qu'à faire, lever de l'argent et faire. Voilà. J'ai déstabilisé l'interruption.
Non, écoute, j'ai trop de questions à te poser et du coup, je ne sais plus dans quel ordre les poser.
Bah, poser en ordre que tu veux, comme elles te viennent.
Du coup, tu parlais de l'international. Je pense que c'est un sujet qui intéresse pas mal de gens qui nous écoutent. Donc toi, tu dis, dès le départ, en fait, vous avez décidé d'ouvrir les pays en implantant des équipes locales.
Alors, notre modèle, encore une fois, on me demande souvent des conseils sur comment aller international. On évite d'en donner parce que c'est très spécifique à notre métier. Nous, dans notre métier, il faut être régulé localement. Donc, pas d'autre choix que d'aller dans le pays. On est régulé non seulement par l'AMF et la CPA en France, mais par la CNV en Espagne, par l'AFM aux Pays-Bas, etc. Donc, il faut être présent localement. Et pour être régulé et être sérieux, il faut prendre des vrais CEO locaux expérimentés. Donc ça, ça a été notre choix. Deuxième choix qu'on a fait, c'est de se penser dès le début comme une entreprise européenne. Ça, c'est très fort dans notre ADN et on s'est dit que si on voulait recruter des bons dans les pays, il ne fallait pas que le lundi matin, on leur envoie une liste de choses à faire et qu'on lève les compteurs le vendredi soir. Il fallait au contraire les responsabiliser et rendre transversales des compétences au sein de l'entreprise. Quelques exemples, Data Science basé à Amsterdam, je te l'ai déjà dit, Portfolio Monitoring basé en Italie, Coordination des ventes basé en Allemagne, etc. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire, il n'y a pas, entre guillemets, toute l'intelligence dans un pays qui donne des ordres aux autres pays qui exécutent. C'est vraiment quelque chose d'européen. On y tient beaucoup. C'est vraiment notre ADN. Il y a énormément de nationalités chez October. Au début, on peut se dire, pourquoi faire ça? Parce qu'après tout, ces cinq pays se ressemblent beaucoup. C'était vrai avant la crise du Covid, c'est pas vrai du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai jamais vu autant de différences entre l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Allemagne et la France. Et heureusement pour nous qu'on s'est internationalisé. Si on était resté que dans un seul des cinq pays et par hasard, entre guillemets, le mauvais pays post-crise, quand je dis mauvais pays, c'est qu'il y a des pays qui ont beaucoup plus souffert pendant la crise et surtout qui n'ont pas été fintech-friendly. C'est-à-dire, deux exemples très concrets, mais distribuer des prêts garantis par l'État, c'est indispensable qu'on fait notre métier, ça nous permet de continuer d'opérer. On peut le faire en France, on peut le faire en Italie, on peut le faire aux Pays-Bas, mais ça nous a été interdit. Quand je dis nous, c'est l'ensemble des fintechs en Allemagne et en Espagne. Donc forcément, ça nous pénalise. Heureusement, aujourd'hui qu'on a cette diversité, je suis sûr qu'à d'autres moments, on sera ravis d'être en Espagne et en Allemagne pour nos activités.
Et donc, tu mentionnais Kea tout à l'heure. Vous avez fait pas mal d'annonces là ces dernières semaines. Mmh. Est-ce que tu peux me dire un peu ce qui se passe chez October en ce moment?
Oui, alors Kea, effectivement, ça ne dit rien à personne puisque c'est sorti de notre imaginaire. Kea, c'est un oiseau. On aime beaucoup les noms d'oiseaux, Magpie, Kea, etc. Et Kea, c'est quoi? C'est à la fois une révolution dans le modèle de scoring, puisqu'on ne se base que sur les transactions bancaires. C'est-à-dire qu'une entreprise peut venir emprunter en nous donnant son historique bancaire, mais elle n'a pas besoin de nous donner son compte de résultat, son bilan, pas besoin de nous donner un business plan non plus, ni de faire un entretien téléphonique. Donc c'est vraiment un bouton pour partager 12 mois d'historique bancaire, répondre à 5 questions assez simples, et on peut faire un prêt de manière instantanée et livrer les fonds quasiment dans la foulée.
Et ça, c'est pour les entreprises que vous adressiez déjà?
Alors justement, tu as raison de le souligner, c'est pour ça marche très bien pour les petites entreprises, ça marche beaucoup moins bien pour les grosses, parce que quand tu as une entreprise en solo-entrepreneur ou 2-3 personnes qui travaillent ensemble, tu préfères savoir s'ils ont fait du chiffre d'affaires la semaine dernière et sont à jour de leur charge sociale toute récente, plutôt que savoir, en regardant leur bilan qui date peut-être d'il y a 12 mois, savoir s'ils ont une voiture à l'actif de fonction et passer une provision pour risque sur un client qui ne représente rien de leur chiffre d'affaires. Donc là, les transactions bancaires sont beaucoup plus riches. Et pour mettre ça en musique, on a trouvé effectivement un premier partenaire idéal, qui est Conto. Donc on n'a pas le droit de dire néobanque pour les pros, donc je ne le dis pas. Mais vous avez compris de ce que fait Conto. Et Conto, avec eux, ce que l'on fait, c'est que leurs clients, en un clic, nous donnent accès à leur historique de transactions bancaires, et ont un prêt. Alors, on a commencé, en fait, on a annoncé ça la semaine dernière, mais la réalité, c'est que ça fonctionne déjà depuis un mois en France. Ça commence très, très fort. On est ravis de cette collaboration. Et comme Conto et nous, on a un autre point commun qui est l'Europe, ce partenariat va être européen. Donc, l'Italie, dès ce mois-ci, donc dès le mois de mai, on enregistre au mois de mai, et puis dans la foulée, d'autres pays. Et il se trouve qu'il y a un très bon recoupement entre les pays de Conto et les pays d'October. Donc voilà, ça va être quelque chose de... Je pense qu'il y aura un avant et un après de manière extrêmement prétentieuse dans l'univers du crédit avec cela. Ça bouscule énormément les codes établis. Et c'est exactement ce pourquoi on a créé October.
Super. Tu le mentionnais tout à l'heure, vous êtes créé depuis octobre 2014 et que c'est une loi qui vous a permis, entre guillemets, d'exister, puisqu'il y avait un monopole bancaire avant sur les prêts. Du coup, dans votre cas, la réglementation, elle a été quand même plutôt favorable à votre existence, quoi. Mais c'est vrai que c'est un sujet toujours très lourd, on va dire, en fintech. C'est quoi un peu les conseils ou en tout cas ton expérience, toi, par rapport à tout ça que tu pourrais partager aux gens qui nous écoutent?
Alors d'abord, la réglementation, on ne considère pas ça comme une contrainte, mais comme une source d'innovation. Donc l'innovation, bien sûr, la réglementation, bien sûr qu'elle est... C'est des contraintes, si on la regarde bêtement, en disant qu'il faut apprendre des choses, il faut respecter des choses. Mais en même temps, c'est le seul moyen de créer la confiance. Si on faisait le même métier, mais sans aucune réglementation, je pense qu'on n'aurait pas beaucoup de prêteurs. Parce qu'ils auraient tout simplement peur qu'on fasse n'importe quoi. Aujourd'hui, le gendarme ultime, celui qui peut venir vérifier, lire mes mails, qui a un pouvoir policier pour vérifier clairement les choses, c'est le régulateur. Et ça, c'est super important. Donc nous, on est complètement pour être régulés, et régulés par des gens sérieux qui, de temps en temps, peuvent nous taper sur les doigts si on fait mal les choses. C'est la contrepartie de la réglementation. Mais en même temps, si on n'a pas ça, jamais on attire le Fonds européen d'investissement qui a prêté 100 millions d'euros sur October. Jamais on attire Allianz, Groupama, CNP Assurance, CDP, qui est la Caisse des dépôts italienne, ICO, qui est la BPI espagnole, BPI ou la Caisse des dépôts, qui sont tous des prêteurs October. Et s'ils viennent, c'est qu'ils sont dans un cadre de confiance, parce qu'on est une société de gestion, en l'occurrence, pour gérer ces clients-là, régulés, avec tout ce que ça implique derrière.
Ok, c'est très clair. Et est-ce que... il y a des mauvaises surprises quand on se développe au niveau européen sur la réglementation, ou est-ce que ça va ?
Oui, il y a forcément des mauvaises surprises. D'abord parce que la réglementation peut être parfois contradictoire d'un pays à l'autre. C'est pour ça qu'on regarde très près l'évolution d'une réglementation européenne harmonisée. Je pense qu'on est à un an et demi, si on est un peu pessimiste, de la mise en place de cette réglementation. Ça a été un grand plus. Et puis, ce n'est pas forcément que la réglementation. Si, la fiscalité, qui est un vrai sujet. Il y a des incohérences fiscales. Nous qui faisons du prêt transfrontalier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux être français et prêter à une société espagnole en deux clics. Bien sûr, on télédéclare tous les revenus en France, en Espagne, etc. Parfois, pas de manière très simple. Donc là aussi, il y aura des choses à faire. Malheureusement, il n'y a pas d'Europe fiscale aujourd'hui. Donc ça, c'est une vraie complexité.
Et pour rester sur des sujets très, on va dire, spécifiques fintech, tout à l'heure, tu disais que vous aviez pu faire des prêts garantis par l'État sur October, notamment en France. Ça a été quand même l'objet d'une campagne de lobbying auprès des pouvoirs publics. Est-ce que tu peux... on peut parler un peu plus de ce sujet, tu vois, de lobbying, de comment ça fonctionne et comment peut-être France Fintech peut aider aussi sur ces sujets-là si on a des membres qui nous écoutent.
Alors, effectivement, le sujet des PGE, on s'en est saisi au niveau de France Fintech, avec toute l'équipe du bureau, avec Alain, le président. Et on est monté effectivement au niveau de Bercy pour parler de la France, pour mettre un cadre en place pour les plateformes de presse, qui n'était pas le cas, puisqu'au début de la crise, seules les banques avaient le droit de distribuer des PGE. Donc on s'est lancé dans ce combat-là. Ça a été un combat à la fois compliqué, parce qu'il y avait beaucoup de sujets auxquels il fallait penser, et ça touchait à beaucoup de choses, la fiscalité, mettre en place des outils avec BPI qui centralisent les demandes de PGE, mais en même temps un combat extrêmement efficace parce qu'on a eu face à nous une administration qui avait envie de faire et qui bossait de folie au milieu de la crise. Moi, j'ai des souvenirs au mois de mai 2020, alors qu'il y avait les ponts, qui tombait bien cette année-là. Et on faisait des rendez-vous téléphoniques, des jours fériés avec Bercy pour avancer, pour pousser les choses. Donc j'en suis extrêmement reconnaissant. Il y avait une vraie oreille attentive à nos demandes.
Ok, c'est clair. Si je reviens un peu plus sur le côté entrepreneuriat au sens large, ça fait quoi, maintenant 20 ans à peu près que tu es entrepreneur ?
Oui, 21 ans exactement.
C'est quoi un peu les leçons que tu tires de tout ça et je sais que c'est difficile de donner des conseils aux gens qui pourraient vouloir se lancer, mais je ne sais pas si tu avais des petites recos, toi, du haut de tes 20 ans d'entrepreneuriat, ce serait quoi ?
C'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. Alors d'abord, j'aime pas trop donner des conseils, pour commencer par ça. Deux, faut savoir vraiment pourquoi quand même vous allez vraiment dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui vous motive profondément ? Et faut pas se tromper de raison. Si vous êtes grisé, notamment en ce moment, parce qu'il y a beaucoup d'argent, par un potentiel succès facile, par une success story qui vous rendra riche et connu, franchement, ça, c'est vaut mieux passer son chemin parce que voilà, je te l'ai raconté sur October, on s'est pris ensemble de murs. T'imagines que sur un 2, 3, un 14 ans aussi. Si t'as pas une force profonde qui te pousse à être résilient et que tu t'attends à un succès fulgurant, tu es mal barré. Même les plus belles success stories sont polissées, racontées plein de fois. Donc derrière les succès qui semblent faciles, il n'y a pas grand monde qui marche sur l'eau.
Oui, tout à fait d'accord. Et toi, du coup, qu'est-ce qui continue à te motiver à te lever tous les matins 6 ans après pour October ?
Ce qui continue à me motiver, c'est d'abord qu'on n'a pas fini. On n'a pas fini de prouver que ça marche. C'est-à-dire qu'October, pour moi, une entreprise qui a prouvé les choses, une entreprise qui est devenue rentable. Et aujourd'hui, on n'est pas encore là avec October. On a de la croissance, on grandit, on fait des choses ambitieuses, mais on n'est pas encore rentable. Donc, on n'est pas encore une entreprise qui est devenue pérenne par sa propre activité. Pour moi, c'est ça une entreprise qui a réussi. C'est pas simplement une entreprise qui croit. Et donc ça me motive. J'ai envie de prouver qu'on peut atteindre ce stade-là. Alors c'est plus facile quand il y a de la croissance et quand il y a de l'excitation. Clairement, ce qu'on a annoncé autour de la technologie October, c'est-à-dire la vente de notre technologie October à des tiers, établissements financiers, ce qu'on a annoncé avec Conto, typiquement, ça m'excite vraiment. Et ça m'excite d'autant plus que je me suis posé la question, comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer pour faire le lien avec le début du podcast, de savoir quand tu as une maladie comme la mienne, si c'est vraiment ce que tu aimes faire, en fait, ou si tu préfères être à la maison et regarder Netflix. J'ai tranché, j'ai essayé de venir au bureau. Voilà.
C'est très clair.
C'est pas grave, c'est la spontanéité des questions. Tu ne coupes pas ce morceau.
Ça, je garantis pas. c'est quoi vos perspectives là en 2021 ou vos objectifs pour October ?
Alors, de 2021, d'abord, on veut continuer sur la croissance du nombre de dossiers financés qu'on a connus au cours des 4 premiers mois. Ça, c'est le premier objectif. Je pense que c'est un objectif qui est faisable, notamment grâce à tout ce qu'on a développé en matière de tech sur des petits dossiers hautement automatisés. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est de montrer qu'on est capable d'équiper des acteurs vraiment traditionnels de notre technologie. Montrer qu'on est capable de les faire évoluer sur quelques dogmes qu'ils peuvent avoir parfois. Donc ça, on se met un défi d'évangélisation du marché. Et ce sera déjà pas mal, en fait, si on arrive à faire ça.
C'est clair. Et on arrive là vers la fin. Toi qui es habitué aux podcasts de Mathieu, qui sont très longs, là, tu vas trouver ça très court.
Je mange des plats de pâtes avant les podcasts de Mathieu. Là, j'ai pas eu besoin.
Là, ça va, il n'y a pas besoin. Comme tu n'es pas assez occupé, tu as aussi monté une fondation. Est-ce que tu veux en dire un mot ?
Alors, oui, c'est vrai. Alors, je vais être honnête, la fondation, c'est ma femme qui s'en occupe. Elle s'appelle Virginie, qui a quitté son job pour être à plein temps sur cette fondation, qui est une fondation familiale, qui s'appelle, je fais un peu de publicité, qui s'appelle Photo for Food, fort avec un 4, et qui a vraiment pour but de mettre l'art au service des autres, c'est-à-dire de vendre des photographies pour payer des repas en France à ceux qui en ont besoin. On mène différentes actions, mais pour en prendre juste une seule pour faire court. Ici, là, on enregistre ce podcast chez October, au 94 rue de la Victoire, dans le 9e. Le lundi, le mercredi et le vendredi, à partir de 19h30, avec les Restos du Cœur, on ferme la rue, on distribue des repas dans la rue, et la Fondation a payé une année de repas que l'on distribue, et a offert également un camion pour faire ce qu'on appelle la ramasse, c'est-à-dire récupérer les invendus dans les restaurants quand ils étaient ouverts ou supermarchés, les reconditionner et les servir. Voilà. Donc ça, c'est une fondation qui est abritée par l'Institut de France, donc c'est l'Académie française, l'Académie des Beaux-Arts. C'est effectivement rien à voir avec le métier de la fintech, mais ça concilie une passion pour la photographie et une envie de bien faire avec le côté aider ceux qui souffrent. Et Dieu sait que pour le coup, là, la crise du Covid a fait souffrir énormément de gens, et on le voit ici dans le 9e tous les soirs, énormément, on en parle beaucoup, mais d'étudiants qui n'ont plus de petits jobs, pour qui c'est très difficile de joindre les deux bouts, qui ont des parents qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Donc on a vu une augmentation du nombre de repas, et là c'est autant on est ravis de voir des augmentations sur le nombre de prêts, autant sur ce genre de stats on aimerait voir des diminutions. Là on parle de 30% de repas servis en plus, ce qui est une catastrophe, et surtout quand on pense à ces actions qui ont été montées il y a bien longtemps par des grands entrepreneurs de la philanthropie comme Coluche, on est encore très très loin des objectifs d'éradication de la pauvreté en France.
Ça, c'est clair. Donc, on vous incite à aller sur le site de la Fondation et,
avec plaisir.
Et
allez-y.
Acheter des belles photos.
Acheter des photos. Il y a plein de moyens d'aider tout en se faisant plaisir.
Super. Merci, Olivier. J'ai deux dernières questions, là, qui sont vraiment plus d'inspiration, on va dire. Est-ce qu'il y a déjà des ressources, toi, que tu aimes bien recommander pour se former, apprendre des nouvelles choses, que ce soit podcast, newsletter, livre, ce que tu veux?
Ouais. Alors, je suis un grand fan de podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts, des formats courts comme des formats longs. J'aime bien parce que c'est très inspirant d'écouter ce que font les uns et les autres, surtout quand il y a des discours non policés. Donc voilà, j'aime bien ça versus parfois des médiums où l'expression doit être plus courte, donc forcément plus convenue. J'aime beaucoup lire, j'avoue que j'aimerais bien lire plus, mais j'ai un peu un manque de temps. Et sinon, j'aime bien tout simplement Twitter, qui est une très bonne source d'infos pour l'immédiateté.
Tu es très actif.
Je suis très actif.
Si vous voulez les infos des Échos le soir, il faut suivre Olivier à 22h30, 23h.
Je me suis fait cette réputation avec mon abonnement premium des Échos à 21h30. Ou s'il y a des titres intéressants, je les partage. Alors je rassure les Échos, je ne partage pas tout l'article. Il y a pas de pillage journalistique. Mais en tout cas, tu as raison, ils pourraient m'offrir l'abonnement à force.
tu leur fais de la bonne pub. Et ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a une fintech ou un entrepreneur de la fintech qui t'inspire particulièrement, français ou pas en l'occurrence?
Plein. D'abord, je suis admiratif de tout ce qui se passe dans l'univers du paiement. Globalement, parce que c'est un secteur qui a une ébullition incroyable. Donc il y a plein d'acteurs qui cartonnent. En France, on pense forcément à Cyril Chiche chez Lydia qui mène le bal. Et puis tous les acteurs étrangers. Effectivement, qu'on voit ce que font des gens comme Stripe, Adyen. C'est assez bluffant. Et pour le coup, je les utilise, Stripe notamment, sur le compte de la fondation pour faire les paiements, etc. Je suis bluffé par la simplicité de leurs API, par la facilité à connecter les choses. Enfin, c'est des modèles assez incroyables.
Eh bien, c'est parfait. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Olivier.
Merci beaucoup, Anaël.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de FinTech, j'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de le partager à deux personnes de votre entourage pour faire connaître le podcast, et n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucune sortie. Merci pour votre écoute attentive et à la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle histoire entrepreneuriale avec FinTech.